c'est un drapeau dans ma vie, une pierre angulaire.
Pierre angulaire.
Alors, c'est vrai, des fois j'utilise des mots compliqués.
Oui, non, mais c'est en dictionnaire ça.
Oui, bien sûr. Ah, bon. Je t'expliquerai.
Non, mais j'aime pas le mot oculaire. Ça fait peur le mot. C'est mot oculaire que j'aime pas.
Bon, bah, messieurs, je crois qu'on va s'arrêter là, parce que.
Oui, parce qu'il nous reste pas quelques minutes.
Non, c'est fini.
Et c'est quoi ton prénom, toi?
Moi, c'est Florence.
Oh, merci, Florence.
J'arrête pas de t'appeler Florence. Je l'appelle Florence depuis tout à l'heure. Ça aurait dû te mettre la puce à l'oreille.
Son prénom.
Je l'ai dit.
Mais on se connaît avec Fred, on se voit régulièrement dans les
vols. Alors ça,
votre vie privée, ça me regarde pas. Parce que là,
y a,
c'est votre problème.
Il y a vraiment des gens qui écoutent.
Moi, ça me regarde
pas. Et peut-être ma femme d'ailleurs.
Oui. Je la connais aussi, donc il n'y a pas de souci.
Florence, on en reparle ce soir quand on se verra.
Oui.
Non, mais... Bon, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup.
Oui, je t'en prie, Florence, c'est gentil à toi. Moi, les Florence, non, ça ne m'est jamais arrivé qu'une Florence.
Bah écoute.
Non, bon.
Il y a un début à tout.
Toujours à l'antenne là.
Oui, allez, virer.
On peut pas couper au montage, Florence.
Oui, en tout cas, moi je suis champion du monde. Moi je précise, je suis champion du monde, moi. Je suis d'origine espagnole.
Allez, on vous embrasse parce qu'on a plus que quelques minutes.
Voilà, écoutez, j'espère que vous avez encore plein de signatures à donner, plein de beaux dessins à faire.
Et on sera encore là demain, bien sûr.
Voilà.
Oui, bien sûr. Moi, les auteurs qui sont présents aujourd'hui.
Oui, c'est très très bien. Ben écoutez.
Bon courage pour les autres parce qu'on a boussillonné sur les micros.
Bon. Bon, ben écoutez, JC, je pense que t'as plus rien à dire, c'est bon.
J'ai rien à dire. J'attends que tu fasses une transition. La transition pour envoyer le morceau.
Il est juste en train de se dire l'année prochaine, faites-moi penser à pour les inviter.
Il tomberait pomme.
Donc, eh bien, voilà, nous allons écouter donc un morceau de musique, c'est ça voilà.
Et c'est quoi Sex Pistol?
Rediffusion d'une émission de Principe Actif.
Chantal Goya?
Une rediffusion.
Ah non, pardon. Bah, alors, si vous voulez le morceau, c'est Kid Francescoli.
Voilà. Merci.
Un italien. Et c'est coupé, là, c'est bon.
Francescoli que vous venez d'écouter, qui sera dans la programmation du 106 pour cette saison.
Principe Actif.
cette petite radio. Est-ce qu'on appelle une radio libre?
Une radio libre est avant tout l'expression de la vie locale et de la population d'un quartier, d'une ville ou d'une minorité.
Principe actif, 95.9, 102.4. Une culture.
Et nous poursuivons les rencontres, les échanges toujours sur ce festival de la BD d'Evreux. Et nous avons à nos micros Stéphane Agosto. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors Stéphane, auteur spécialisé de l'aviation quand même, j'ai l'impression, vous m'arrêterez quand je dis des bêtises, hein, bien entendu. Et puis sur les questions des périodes de la guerre, en tout cas dans les albums publiés, je pense à FAFL, je pense à Ciel sans pilote et à d'autres albums, notamment autour de Dieppe. Donc voilà, ma première question va être, est-ce que finalement c'est arrivé à l'écriture et bien au scénario et puis à l'illustration, passe par ces questions là
moi c'est le dessin, hein.
Oui, c'est le dessin.
Ouais, plus le dessin.
Il y a eu un peu de scénarisation, non, aussi?
Non, c'est que sur le
dessin.
Ouais, ouais. C'est le dessin, ouais.
Et alors du coup, est-ce que pour vous le dessin, bah finalement, il y a un attrait spécifique sur ces périodes historiques de guerre, notamment parce qu'il y en a quand même pas mal dans votre bibliographie.
Oui, qui est pas si importante que ça, parce qu'il y a une petite quinzaine d'albums, mais effectivement, l'essentiel porte sur ces périodes, notamment de la Seconde Guerre mondiale, première aussi un peu. Mais c'est, on va dire que j'ai une vraie passion pour l'histoire, au-delà de la BD, mais voilà, je lis beaucoup de livres d'histoire, je suis vraiment intéressé par ces périodes. Mais c'est quand même un petit peu les rencontres avec des éditeurs qui m'ont amené à travailler dans ces périodes-là, quoi. J'aurais pu très bien travailler sur d'autres sujets, hein. C'est pas une volonté de ma part. Je suis pas arrivé dans le milieu de la BD en disant je veux faire des BD sur les avions ou sur les.
Mais il y en a beaucoup quand même des avions. Du coup, je me posais la question. Je me suis dit, est-ce qu'ils dessinaient des avions depuis toujours?
Alors en plus, si on veut pousser un petit peu les paradoxes comme ça plus loin, même mon père était pilote de chasse. Mais ouais, mais voilà.
Bah, vous nous nourrissez là, hein, dans les questions là.
Et pourtant, tout ça reste vraiment du hasard. Hein. J'y suis arrivé vraiment par hasard. Alors ça me fait plaisir de dessiner ça parce que j'ai une vraie passion pour l'histoire. C'est vrai que par mon père, je connais un petit peu le milieu de l'aviation. Mais ceci dit, ça reste encore une fois juste une rencontre avec un éditeur qui m'a permis de travailler dans ces périodes là, quoi. Et alors après, bah oui, de fil en aiguille, évidemment, pour le projet qui suit, on te dit bah tiens, on va continuer et puis etc. Mais
on a trouvé notre spécialiste de l'aviation. Ouais. On va lui proposer des projets, c'est ça. Voilà. Sur alors quand on illustre, quand on dessine, il y a toute une partie quand même documentaire, enfin, ouais, où on peut pas se permettre de dessiner n'importe quoi, notamment
sur ces machines-là.
C'est sur des ouvrages qui ont quand même une vocation historique. Alors, qu'on le veuille ou non, parfois d'ailleurs, hein, c'est obligé d'avoir cette notion-là. Comment ça marche pour vous, là, cette partie un peu documentation et documentaire?
Documentation. Elle est importante. Alors moi, je cherche pas à faire de dans ces BD-là, je ne cherchais pas à faire de l'hyper-réalisme. J'essayais d'être raccord quand même avec la réalité. Donc c'était plus faire vrai que de faire la réalité. Donc la documentation est assez classique, hein, c'est des livres, c'est Internet aujourd'hui qui nous aide beaucoup quand même à avoir accès à une quantité d'images impressionnantes. Les maquettistes aussi nous apportent aussi beaucoup de documentation pour les photos qu'ils font de leur réalisation. Voilà, le scénariste lui-même m'apporte aussi de la documentation. Et puis après, à partir de tous ces éléments-là, moi je construis mes dessins, mais qui encore une fois n'ont pas vocation à être hyper réalistes. Hein. Moi j'ai un style. Je travaille notamment à l'aquarelle avec lequel j'essaie de m'affranchir d'une trop grande rigueur, parce que je sais que dans ce milieu-là, enfin les lecteurs, il y a vraiment des gars très exigeants. Je sais qu'il y a des auteurs qui répondent à ces exigences. Moi je me mets un petit peu à part, je suis un peu plus relax par rapport à ça. Voilà.
sur le trait en lui-même, voilà, il y a un trait très affirmé. Et je me permets de revenir sur une des dernières parutions, les buveuses de thé, qui justement sort totalement de ce champ-là. On est autour d'un parcours de vie de plusieurs femmes autour du cancer du sein, ouais, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai l'impression que le trait est totalement différent aussi dans la technique de dessin. Enfin, en tout cas, moi, j'ai perçu comme une
peut-être
différence.
Peut-être que ça peut apparaître, c'est vrai, un peu différent. C'est vrai que les scènes que je dessine sont tellement différentes aussi que, bon, forcément, on se dit c'est autre chose. On est ailleurs, quoi. C'est clair par rapport à ce que je faisais avant. En réalité, la technique est sensiblement la même que celle que j'utilisais notamment dans ma première série FAFL, hein, c'est la couleur directe, aquarelle. Alors peut-être maîtriser peut-être un peu mieux que je n'ai pu le faire il y a 10-15 ans, mais ça reste sensiblement la même technique. Ceci dit, c'est vrai que là je dessine plus des hommes mais des femmes, je dessine plus des avions mais je sais pas, des services à thé, hein, enfin, donc c'est vraiment très différent, quoi. L'univers est très différent, les couleurs aussi sont beaucoup plus lumineuses, on n'est plus dans la boue des tranchées ou dans la fumée d'un avion qui crame, quoi. Donc
oui, c'est peut-être ça aussi qui a ramené une autre sensation, ouais, sur le trait. Vous parliez il y a un instant de couleurs directes, travail d'aquarelle, c'est-à-dire que c'est pinceau sur des grandes planches. Là, c'est ma petite curiosité de savoir comment ça marche, ouais, en atelier. Est-ce que chaque case est un grand format? Est-ce que ça travaille sur quel format?
C'est les planches sur lesquelles je travaille sont sensiblement plus grandes que ce qui est publié. J'ai pas les dimensions en tête, mais on va dire qu'on est à peu près sur 50 cm sur 40, quelque chose comme ça, ou sur 30, 35 sur 50 cm.
Quasiment le double de la taille édition, oui, c'est ça,
à peu près le double de l'album, je pense. Et pour la technique, je fais un crayonné sur ces planches que je repasse ensuite au stylo bic. Et ensuite, effectivement, c'est de l'aquarelle. C'est le gros du travail, c'est la mise en couleur, quoi, qui demande plus de temps même que le dessin. Donc je passe beaucoup de temps sur la couleur.
Ouais. Sur justement cette technique aujourd'hui à l'ère du numérique, parce que beaucoup travaillent aussi en numérique, c'est quoi, c'est le rapport un peu charnel avec la matière, comment ça se passe pour vous en fait?
Moi, c'est parce que j'ai toujours travaillé comme ça, donc j'ai envie de dire, tant que on m'autorise à le faire qu'on continue à me payer pour le faire, moi je suis pas contre, hein, toutes les nouvelles techniques qui existent, je trouve ça, il y a vraiment des trucs superbes qui se font avec toutes les, c'est un outil de plus, quoi, qui s'ajoute à tout ce qui existe. Moi, j'ai pas encore franchi ce cap là. A priori, je ne vois pas le franchir. Hein. Si je peux continuer comme ça, c'est très bien.
Parce qu'il y a le plaisir,
y a un vrai plaisir
quand même
de dessiner, oui, voilà, c'est sur ça. Le papier. Moi, je suis content de faire ma petite tambouille avec mes aquarelles, mes gouaches, l'eau, les chiffons, les crayons, etc. Mais je pense que ceux qui travaillent en numérique ont aussi leur petite tambouille, hein, leur petite cuisine.
Oui, c'est ça, c'est les techniques des uns et des autres, effectivement. Sur justement tout ce travail, vous, Stéphane Augusto, comment est l'atelier? Comment ça travaille à la lumière du matin, à la lumière du soir, à la lumière de l'après-midi? Non, mais c'est comment ça fonctionne?
J'essaye de plus en plus d'éviter la lumière du soir parce que j'ai envie de me coucher plus tôt, mais.
Parce que c'est un métier assez solitaire, on n'imagine pas trop,
en fait. Après, il y a des dessinateurs qui travaillent en atelier collectif. Hein. Moi, je suis assez ours de nature. Et donc, je suis très bien dans un atelier tout seul, toute la journée, effectivement. Ouais, un petit atelier avec plein de livres dedans, deux, trois bureaux, et puis voilà, quoi, je me débrouille là-dedans. De la musique. Ou du calme.
Oui, c'est ça aussi, c'est l'ambiance. Peu importe, musique ou calme.
Suivant mes envies, quoi, en fait. C'est peut-être ce qui fait que j'aurais du mal à travailler d'ailleurs avec d'autres dessinateurs dans le même atelier, parce que je pense qu'à ce niveau-là, il y a forcément un arrangement à trouver avec le collectif qui n'est pas toujours évident, peut-être.
Au moins pour la musique.
Ouais, c'est ça.
C'est au moins pour la musique. Sur les projets, est-ce qu'il y a des choses stimulantes qui vous attendent prochainement, ouais, des trucs qui donnent envie?
Oui, je suis dessus, là. Il y a un nouvel album sur lequel je travaille, toujours chez les sculpteurs de bulles et avec le même scénariste, Benoît Prieur. les mêmes scénaristes que pour les buveuses de thé, donc ça sera encore une fois une histoire de femme. Donc je quitte encore, enfin je reste éloigné des avions de la guerre pour ce nouvel album, une histoire de femme, et là c'est une histoire intimiste au cours de laquelle une femme va de 35 ans à peu près va avoir l'occasion de découvrir qui était son père, qu'elle n'a pas connu, pour sa mère lui a jamais parlé, et voilà, elle part en Italie sur les traces de ce père. Voilà.
C'est une rencontre du coup avec Ben Prieur. Des fois il y a des propositions des éditeurs, des fois ce sont des rencontres humaines sur lesquelles on a envie de bosser. Avec Ben Prieur, c'est comment?
C'est les deux en fait, c'est-à-dire que Ben Prieur est scénariste, mais il est aussi éditeur.
D'accord. C'est lui qui édite.
Qui édite les buveuses de thé.
D'accord.
C'est lui le scénariste aussi de cet album.
Les sculpteurs de bulles, c'est lui du coup.
Ouais, c'est lui, c'est ça. Ouais. Donc il est venu me chercher en tant que scénariste. Il s'est présenté en tant que scénariste, mais aussi en tant qu'éditeur. Donc voilà.
Rencontre a fonctionné, c'est parti quoi.
Ah, voilà. Ouais.
Très bien. Donc on peut vous rencontrer aujourd'hui et demain sur ce festival de la BD. Vous avez croisé d'autres auteurs, illustrateurs, scénaristes. Parce que des fois c'est l'occasion aussi de croiser les confrères,
des
vieux copains des fois.
Oui, exact. Ou même de la famille. De la famille que j'avais pas revue depuis peut-être 20. Oh non, qu'est-ce que je dis, peut-être 30 ans. Enfin bon. Non, de la famille, voilà. Donc c'est l'occasion d'en trouver des collègues, des amis, de la famille. Mais malheureusement, on n'a pas forcément le temps de développer à chaque fois les rencontres, parce qu'on a un peu de travail aussi quand même.
Oui, mine de rien. Hein.
J'imagine. Je vais venir à la radio en plus.
Bon, en tout cas, c'était très gentil à vous d'arriver jusqu'ici. Vous faisiez partie des auteurs repérés en amont. Voilà, merci beaucoup, Stéphane Agosto, d'être passé par nos micros.
Merci, bonne continuation.
Merci bien. On poursuit en musique avec un truc qui nous amuse bien avec Damien. Dernièrement, on s'en est pris plein les oreilles. Enfin, dernièrement, ça fait un petit bout de temps que ça tourne et on s'en prend plein les oreilles. C'est Angine de poitrine. We'll be right back. de poitrine. Si vous avez été décontenancé, c'est normal, c'est ça le but. Et le titre, c'était Togd. Bah ouais, c'est une langue particulière, hein. C'est pas une langue comme la nôtre.
Principe actif.
C'est une radio libre.
Oui, je sais.
Non, c'est une radio libre.
Je suis au parfum.
À Évreux, 102.4. À Verneuil-sur-Eure, à Breteuil-sur-Iton, à Conches-en-Mouche, 95.9.
Et nous sommes toujours en direct, en live et en public du Festival de la BD à Évreux qui se tient sur la place du Général de Gaulle, c'est la place de la mairie hein, tout simplement. On vous invite à nous y rejoindre et ça y est, la pluie a cessé, donc c'est le moment ou jamais de sortir de chez vous, de votre voiture ou de d'où vous êtes, peu importe, pour nous rejoindre. L'occasion pour vous de rencontrer, discuter, échanger, papoter avec plus de 50 000 auteurs, de bande dessinée. Et justement, nous en avons un avec nous, c'est Sty. Bonjour.
Bonjour.
Et puis, Marie-Claude. Bonjour. Marie-Claude sera aussi à la question, exactement.
Bonjour tous.
Sty, alors on l'a vu, alors c'est un auteur à vrai. On se permet de le citer juste parce que il y a des petites fiertés normandes sur lesquelles on ne va pas bouder. Vous l'avez lu dans Les Profs notamment. Il est auteur Titanic Park. Il a fait un album autour des pirates parce que c'était le thème aussi.
Exactement.
C'était le thème de cette année de ce salon. C'est Annabelle, la pirate rebelle, dans un style qu'on pourrait qualifier de franco-belge.
Tout à fait, ça me va très bien.
Clairement.
Style franco-belge, humour.
Humour franco-belge, exactement. Ma toute première question, Sty, à quoi as-tu été bercé enfant? Est-ce que la BD est venue te titiller à cette époque-là?
Évidemment, et notamment la BD franco-belge, évidemment. Moi, je suis un enfant de Spirou, dont j'ai été abonné très jeune, et c'était mon rêve petit d'être dans le journal. Donc, quand j'ai pu réaliser ça, ça fait maintenant 15 ans que je suis dans Spirou, c'était une joie infinie. Je rêverais d'aller voir moi petit pour me dire à moi-même, t'inquiète pas, tu y seras plus tard.
Tu vas y arriver.
Tu vas y arriver plus tard. Et donc, Annabelle Pirate Rebelle, dont vous parliez.
Bon, j'étais parti sur le tutoiement.
On va se tutoyer. Dont tu parlais, a été prépublié dans le magazine Spirou, justement.
Voilà. Ah oui, le personnage ou les histoires déjà.
Toutes les petits gags ont été publiés dans Spirou avant de finir en album chez Varou, qui est l'éditeur local.
Tout à fait. Alors, quand on publie chez Spirou, ça doit être juste un kiff, en fait. Quand on l'a lu et qu'on publie après des histoires chez Spirou, ça doit être un super kiff, non?
C'est un peu la classe.
Il faudrait presque mettre un badge.
C'est ça, je vais avoir une petite barrette. Oui, oui, évidemment, c'est un fait d'armes. C'est toujours cool. Et en plus, j'aime bien le principe de les publications hebdomadaires. Ça oblige à être dans une sorte d'urgence qui, moi, me fait tourner ma créativité au maximum. Voilà, quand j'ai trop de temps, je suis moins efficace que quand je dois rendre des trucs.
C'était comme ça aussi à l'école, peut-être.
J'étais plutôt pas mal à l'école quand même. J'étais plutôt pas mal.
Alors justement, moi, je vais revenir sur Spirou parce que Spirou a marqué l'histoire de la BD quand même, et ce depuis très très longtemps.
Oui,
c'est quelque chose, c'est un marqueur quasi immuable finalement. Spirou. Enfin, je ne sais pas comment les auteurs de BD le voient, mais beaucoup,
c'est leur porte d'entrée dans la BD. Alors il y en a évidemment aussi qui ont lu Pif. Maintenant moins, puisque ça fait comme une paire d'années que Pif n'existe plus.
Oui, c'est ça. Ouais.
Mais en gros, il y a une sorte de triptyque Pif, Mickey, Spirou et aussi le journal de Tintin à une époque.
Bien sûr.
Mais c'est encore plus vieux le journal de Tintin.
Beaucoup de moi, je suis copain avec des auteurs maintenant que j'ai lu quand j'étais petit dans Spirou, et maintenant il y a des jeunes auteurs qui me disent oh, je t'ai connu dans Spirou, le coup de massue derrière la nuque.
Ça fait mal.
Mais d'un autre côté, c'est quand même une sorte de fierté. Donc,
c'est une reconnaissance.
C'est vraiment un marqueur. Spirou, c'est vraiment. C'est tout ce que j'ai toujours voulu faire en BD en plus.
C'est le Graal un peu.
C'est un peu. En tout cas, moi, c'est mon Graal. Il y en a d'autres qui ont préféré les comics, les mangas.
Ouais.
Mais moi, Spirou, c'est mon Graal. Ouais. C'est ce qu'on trouve dedans. C'est vraiment la came de ce que j'aime lire aussi en plus.
D'accord.
Voilà. justement ces lectures actuelles quand on est auteur de BD, illustrateur, quand on connaît quand même de l'intérieur le milieu, on lit quoi?
Eh ben alors, moi je suis un auteur reconverti en fait. Avant j'ai eu une autre vie avant, c'est pas si longtemps que ça. Ça fait 20 ans que je fais de la BD quand même. Mais j'ai eu une autre vie avant où je lisais énormément de BD. Et finalement, plus le temps passe et plus j'en produis, moins j'en lis d'autres. Parce que, alors peut-être aussi parce que je fais ça toute la journée, donc le soir oui. J'ai envie de faire autre chose. Et puis j'essaye aussi de pas être trop influencé par les autres. Ça m'est déjà arrivé de sortir des gags. Finalement, j'avais lu ailleurs, on me dit ah mais ça c'est un gag de Gaston et tout ça. Et donc en lisant le moins possible, notamment des trucs d'humour. Ça m'évite de piquer involontairement des gags aux autres. Mais ça m'empêche pas de jeter toujours un coup d'œil. Et puis j'ai tellement de copains dans la BD d'humour. Je sais pas, c'est une sorte de pudeur aussi de pas trop lire ce qu'ils font. Mais on rigole tous ensemble, mais on lit pas trop ce que font les uns les autres finalement.
Et l'imaginaire, comment il vient, l'idée d'une BD, d'un album, d'une série?
Alors quand on doit expliquer le métier, expliquer la partie réalisation du dessin, donc le crayonné, l'ancrage, la mise en couleur, tout ça, c'est assez facile à expliquer. Et finalement, le plus dur à expliquer, c'est d'où sortent les idées. Parce que j'ai pas de recette miracle, il y a pas de. Chez Raoul Covin, le fameux éditeur des tuniques bleues, des femmes en blanc, Pierre Tombal, etc. Lui s'allonge dans son canapé, c'est comme ça qu'il trouvait des idées. Moi, ça marche pas comme ça. Ce que je fais, c'est que je me promène, je regarde les gens, ou je lis les infos, ou je fais rien, je regarde un dessin animé. Et tout d'un coup, pouf, un truc va jaillir de ma tête. Généralement, je le laisse mijoter 2-3 jours pour qu'il se bonifie. Je coupe généralement les branches qui ne sont pas très utiles pour essayer d'avoir l'essence même du gag. Et à partir de ce moment-là, quand je l'ai laissé bien mijoter, hop, j'en fais ma planche. Mais je peux rester du coup une journée sans rien trouver. J'ai l'impression que j'ai rien foutu de ma journée. Et le lendemain, je vais en trouver 5 ou 6 d'un coup, quoi.
Ouais.
Donc vraiment d'où viennent les idées, ça c'est vraiment le plus dur à expliquer. Enfin, j'ai pas d'explication logique à ça. Je pense que c'est une question de personnalité à la base aussi, d'avoir un esprit créatif ou pas.
Sur alors tu disais sur la partie BD, tu en lis moins que tu en as lu. Est-ce qu'il reste pas forcément sur le franco-belge, hein, mais des auteurs qui t'ont marqué, qui te font waouh, c'est
ah oui, là, mais j'en prends plein, même encore des auteurs actuels que je lis quand même, parce que ceux-là vraiment c'est des incontournables. Alors moi je vais pouvoir en citer 2-3. Donc c'est surtout des auteurs d'humour, mais j'adore Guillaume Bouzard, j'adore Libon. Et puis évidemment dans ceux qui m'ont beaucoup inspiré, bah, évidemment il y a eu Franquin comme à peu près tous les auteurs, mais un gars comme Zep, moi je suis un grand fan de Titeuf, même si j'ai connu adulte, mais ça m'a toujours fait beaucoup rire. En plus les gags pipi caca prout, moi c'est ce que j'aime. Voilà, donc oui il y a quand même plein d'auteurs contemporains que je trouve beaucoup plus drôles que moi, donc je suis infiniment jaloux évidemment.
On évoquait tout à l'heure les tuniques bleues. J'ai cru comprendre que tu avais participé numéro, hein, c'est ça?
Tout à fait.
Ça aussi, en fait, c'est un monstre, les tuniques bleues.
C'est une des Madeleine de Proust, forcément, parce que ça a toujours existé pour moi, depuis que je suis né, en tout cas, quasiment.
Je sais pas, ils sont à plus de 50 tomes.
Oui, ils ont plus, presque 60 tomes maintenant.
Ah ouais, c'est pas rien, quoi.
Et justement, c'était pour les 60 ans des tuniques bleues. Ils ont proposé à des binômes d'auteurs de Spirou et un peu d'autres de réaliser des histoires courtes des tuniques bleues pour en faire un album. Et quand on m'a proposé, mais j'étais comme un fou, quoi. Vraiment, on m'a dit, ah, alors tu fais entre 6 et 8 pages. Je dis, 8 pages, 8 pages. Je peux pas en avoir plus, bientôt.